Un diamant de 100 millions, une enquête de l'inspecteur Barr par Michel Corry. Chapitre 1er, le diamant rose a disparu. 100 millions, une bague de 100 millions. Et le duc de Figeac ouvrait de grands yeux effarés.
Oui,
expliquait le baron Thumereau, c'est un bijou historique, un diamant rose qui constitue une pièce unique. Et il en racontait l'histoire au duc. C'était à la soirée donnée à l'ambassade d'Illyrie. La reine d'Illyrie, l'ex-princesse Christine, qui avait épousé l'année précédente Sa Majesté Athanase III, roi d'Illyrie, devait arriver le lendemain en France où elle était attendue. Le baron Thumereau, dont le titre de baron n'était qu'un témoignage, assez douteux, prétendait-on, de noblesse d'affaires, continuait son exposé avec force détail. Il disait comment la comtesse Roberte de Plassans tenait ce joyau de son mari et le comte, glorieusement tué lors de la campagne du Maroc. Celui-ci, possesseur de ce bijou de famille, n'avait jamais consenti à le monnayer. Il venait d'un lointain aïeul qui le tenait lui-même de Louis XV en récompense de la bravoure du chevalier de Plassans, qui lui avait opportunément sauvé la vie lors d'une aventure amoureuse du souverain quelque peu imprudente. « C'est, insistait le baron Thumereau, un diamant rose, le plus gros qui soit au monde. Voulez-vous savoir le nombre de ses carats et l'estimation qui en est faite en Amérique ?» Vous parlez comme un livre, baron, ou mieux, comme un catalogue. Celui qui venait de prononcer ces mots avec une froide insolence eut en même temps un sourire sarcastique. C'était le comte Pierre de Magny, de bonne noblesse, mais que l'on disait ruiné. Le baron Thumereau ne répondit que par un autre sourire d'une indifférence fort bien imitée. Le comte, d'ailleurs, s'éloigna sur une élégante pirouette. Il avait fort grand air, d'une distinction suprême, qui impressionna fort le duc de Figeac, de noblesse provinciale et qu'il quittait guère son manoir périgourdin de gentleman farmer. La comtesse est veuve, fit-il, et l'ajouta assez lourdement, beau parti. Pouh, fit le baron Thumereau, la famille de Plassans est sans fortune. La comtesse s'est toujours refusée à livrer sa bague au commerce. Un vœu, dit-on, exprimé par son épouse sur son lit de mort à l'hôpital militaire.
Ah, c'est très bien cela, fit le duc.
Et puis, dites donc, elle est ravissante cette jeune veuve. Alors, beau parti quand même. Le baron Thumereau ne répondit que par un signe. Il montrait au duc la comtesse qui, dans la vaste antichambre de l'ambassade, mettait son manteau, aidée par le comte Pierre de Magny. Elle sortit, très saluée, cependant que le comte s'éclipsait discrètement en même temps qu'elle.
« Ah !» fit M. de Figeac, avec clignement d'œil qu'il voulait malicieux.
« Est-ce que cela se dit ?» répondit le baron Thumereau. De fait, si le duc se fût seulement rapproché de la haute baie vitrée de l'antichambre, il eût pu voir le comte et la comtesse, après quelques pas sur le trottoir devant l'ambassade, faire signe à un modeste taxi et s'y engouffrer tous les deux. Quelques minutes plus tard, tous deux descendaient de l'auto devant un immeuble de grande apparence des Champs-Élysées. C'est là qu'habitait le comte, mais son logis, de l'autre côté de la cour, était séparé du reste de la maison et situé dans une sorte de pavillon qui pendant longtemps n'avait été qu'une partie des communs de la belle demeure. Au quatrième étage, Pierre de Magny avait là son logement, qu'il appelait sa garçonnière et qui ne comprenait assez modestement que deux pièces et une salle de bain gentiment meublées sans plus. Robert se laissa tomber sur le divan.
« On est bien, ici, dit-elle, le seul lieu de mon bonheur. »
Pierre prit longuement ses lèvres.
« Ma chérie, »
fit-il, ils s'enlacèrent.
« Tu m'aimes ?»
Robert ouvrit lentement ses yeux magnifiques qu'elle avait fermés, pâmés sous le baiser.
« Tu le sais, Pierre, je t'aime. Je n'ai jamais aimé que toi. Celui dont je porte le nom n'a été pour moi que l'époux respecté, sans plus. C'est le passé. Aujourd'hui, je n'ose penser à l'avenir. J'étais jeune, si jeune, quand, au chevet de ce héros qui mourait pour moi, à cause de moi, quand, désespéré de ma froideur, il était parti au Maroc chercher le trépas. Je lui fis, ému, ce serment terrible de ne jamais épouser un autre homme, de me vouer éternellement à son souvenir. » J'étais ignorante de la vie. Il y eut un silence, elle le rompit, se forçant à la guetter. Et ce souper, mon chéri, ce souper promis. Pierre passa la main sur son front, comme pour y effacer le pli soucieux qui venait de s'y creuser. Mais déjà, Roberte, légère, s'est élevée, et en habituée, elle sortait d'un petit meuble élégant toute une vaisselle de goûter. Elle retira son collier, un lourd bracelet qu'elle plaça dans une coupe de cristal sur la cheminée. Puis, avec précaution, la bague merveilleuse au diamant rose.
« On ne fait pas la petite cuisinière avec un bijou historique, » dit-elle en plaisantant.
il adressa le souper. Un aspic de foie gras, un demi-poulet froid, quelques gâteaux, des fruits. Pierre rapporta une bouteille de champagne qu'il alla quérir dans la salle de bain qu'il appelait plaisamment sa cave. 2 heures sonnaient, quand le gentil repas coupé de mots d'amour et de baisers s'achevait. « Il faut que je rentre, » dit Robert, « il est tard. »«
Le matin déjà. »
Pierre tenta un instant de la retenir. « Pas ce soir, mon chéri. 1000 petites courses, demain matin.
Que dis-je, ce matin ?
Mais à bientôt. Allons, il faut que je quitte ma tenue de ménagère. » Elle attacha autour de son cou son collier et passa le clip se décolleté de sa robe de soirée, puis enfila son lourd bracelet. Elle revêtit sa fourrure dont elle voyait dans la glace tomber les plis harmonieux. Elle se pencha vers Pierre pour le baiser d'adieu. Puis tout à coup, « Suis-je folle ? Et ma bague que j'oubliais ?» Elle retourna à la coupe où tout à l'heure elle l'avait déposée à côté du collier et des autres bijoux. La coupe était vide. La bague avait disparu. Chapitre 2e. L'enquête de l'inspecteur Paul Barre. D'abord, la comtesse crut une méprise. Elle regarda sa main, sûre d'y voir briller le diamant. Mais sa main était nue. Alors elle retourna à la coupe. Certainement le bijou était là. Elle allait l'y voir. Il ne pouvait pas ne pas y être.
Non, la coupe était vide, bien vide.
Pierre l'observait, immobile, un peu pâle.
Voyons, cherche. Tu l'as placée ailleurs, sans doute. Cherche. Peut-être aussi l'as-tu fait tomber en prenant tes autres bijoux. Elle a pu rouler sous un meuble.
Ils cherchèrent, fouillèrent partout. Rien, toujours rien.
C'est insensé, disait-elle. Insensé. Enfin, qu'est-ce qui a bien pu se passer ?
Elle regardait Pierre. Pierre, à son tour, l'observa, les yeux dans les yeux, puis, lentement,
« Robert, que penses-tu ? Que veux-tu dire par là ? Expliquons-nous. »«
Il n'y a pas d'explication, » répondit-elle avec énervement. « Il n'y a que cette bague perdue. C'est inimaginable, c'est fou. »«
Voyons, raisonnons. Elle était dans la coupe, tu en es sûr. En ce cas, si elle a glissé ou si elle était ailleurs que dans cette coupe, elle est dans cette pièce et on doit l'y trouver. »
La trouver, de toute façon, dans l'appartement. Personne, cela est certain, n'a pu entrer ici. Nous sommes deux, rien que nous deux, alors.
Alors c'est moi qui l'ai. Tu ne peux pas penser autre chose.
Pierre, tu es fou,
Robert. Ne fût-ce qu'un soupçon, et ce soupçon, il est impossible qu'il ne t'ait pas pour le moins effleuré.
Pierre.
Si, ne fût-ce qu'une idée fugace, que tu veux repousser, c'est trop, je ne le veux pas.
Il s'était emparé du téléphone et composé un numéro. « Que fais-tu là ?»
Pierre ne répondit pas. Maintenant, il parlait dans l'appareil. « Ici 244 Champs-Élysées. J'ai le comte Pierre de Magny. »«
Oui, c'est urgent.
Oui,
c'est grave. »«
Un vol de 100 millions. »«
Venez vite. »«
Qu'est-ce que tu viens de dire ? Qu'est-ce que tu viens de faire ?»
Pierre répondit gravement, cessant soudain de tutoyer familièrement son ami.
« Écoutez-moi. Il faut, croyez-moi, que cette affaire soit réglée. »
À qui avez-vous ainsi téléphoné ?
J'ai prévenu police secours.
10 minutes, et la sonnette de l'appartement résonnait. Pierre, suivi de Robert, ouvrit.
Messieurs, dit-il aux agents et aux brigadiers qui les accompagnaient, à l'ordinaire, c'est la victime qui vous appelle à son secours. Aujourd'hui, c'est le coupable présumé.
Oh, Pierre !
Veuillez, madame, me laisser expliquer à ces messieurs.
Et Pierre exposa les circonstances détaillées de l'inexplicable disparition du bijou.
« Comme il ne peut pas y avoir d'autres coupables que moi, en toute logique, je vous prie de procéder à mon arrestation. »«
Mais, monsieur, » fit le brigadier, interloqué,
« je l'exige. Emmenez-moi. Jusqu'à votre arrivée, madame a pu observer tous mes mouvements.
Il faut que cette constatation ne soit pas une seconde interrompue.
Brigadier, arrêtez-moi. Ne me quittez pas de vue. Je vous le demande pour la réussite de votre enquête, pour la sauvegarde de mon honneur. »«
C'est entendu, monsieur. » Pierre, dans le car, Robert, dans un taxi, arrivèrent en même temps au commissariat, où le commissaire prévenu par téléphone se trouvait déjà. Il trouva naturelle la demande de Pierre de Magny.
« Vous simplifiez ma tâche.
Cette fouille va avoir lieu tout de suite avec les égards qui sont dus à votre personne et à votre franche attitude, mais aussi avec toute la minutie qu'elle comporte et que d'ailleurs vous sollicitez.
Veuillez donc, monsieur, passer dans cette pièce où la formalité va avoir lieu en ma présence, effectuée par mes inspecteurs. »
La fouille fut longue et, comme l'avait promis le commissaire, minutieuse. Quand elle fut achevée, le magistrat rentra dans son cabinet où la comtesse attendait.
« Madame, j'ai l'honneur de vous informer que votre bague ne se trouve pas sur la personne de M. Pierre de Magny. »
« J'en étais sûr, monsieur le commissaire. » Il était alors 9 heures du matin. L'affaire fut aussitôt confiée pour le principe à un juge d'instruction, M. Desmoulins, commis ordinairement dans les affaires bien parisiennes, et celui-ci chargea aussitôt de l'enquête l'inspecteur Paul Barre de la police judiciaire. « Il importe, » exposa le commissaire qui avait conservé sur sa propre demande Pierre à sa disposition, « que votre appartement soit resté tel qu'au moment de la constatation du vol. » « J'ai laissé 2 agents de garde à cet effet, » dit le brigadier. « C'est parfait. Il faut les faire relever par 2 de ses collègues qui s'y rendront avec l'inspecteur Paul Barre. » Et se tournant vers Pierre de Magny et Robert de Plassans, « L'inspecteur Paul Barre est un détective de grande classe. » Il n'en dit pas plus. Mais la surprise du comte et de la comtesse fut grande quand l'inspecteur leur fut présenté de se trouver incontestablement en face d'un homme du monde accompli et dont la distinction de tenue et de langage ne le cédait en rien à celle du comte lui-même. C'est que l'inspecteur Paul Barre constituait un cas unique dans la police parisienne et probablement du monde entier. Instruit, cultivé, de haute famille, fort riche au surplus, Paul Barre avait été appelé à ses fonctions par une irrésistible vocation. Il était détective dans l'âme. Il avait cette profession, comme on dit, dans le sang. Par exemple, il n'avait rien du fonctionnaire soumis à ses chefs, et encore bien moins craintif devant eux. Son indépendance était totale. On le savait à la préfecture et au palais. On savait aussi ses hautes relations et ses extraordinaires capacités. De là, l'estime qui lui était témoignée et la liberté dont il jouissait. Il était appelé pour toutes les affaires délicates. « Mon enquête sera peut-être longue aujourd'hui, » expliqua l'inspecteur, « mais les auxiliaires dont j'aurai besoin pourront se relayer. Moi, je ne m'arrêterai pas, d'autant plus que ce soir, je suis de service. Oui, j'assure le service de sécurité des souverains lyriques qui arrivent par avion au Bourget. Comme si c'était l'affaire de la police judiciaire. Mais le ministre de l'Intérieur me l'a demandé. C'est un vieil ami de ma famille, j'y ai consenti. » Il disait cela avec une grande simplicité, d'autant que c'était l'exacte vérité. Dans le même temps, il commençait son enquête. Il avait tiré de sa serviette une sorte de grand filet à large maille carrée qu'il passa sur le parquet et sur les murs, chaque carré étant numéroté. Ainsi, il observa chacun de ces carrés avec divers instruments de précision, pas un centimètre qui ne fût exploré. « Maintenant, dit-il, je vais vous poser, madame et monsieur, quelques questions essentielles. Les 2 fenêtres de l'appartement ont-elles été ouvertes cette nuit depuis votre entrée dans le dit appartement jusqu'à maintenant ?»« Non, monsieur l'inspecteur. Les volets en sont-ils restés clos également jusqu'à notre arrivée tout à l'heure ?»« Absolument. Bien. Je désire parler au concierge de l'immeuble. » À grands pas, il descendit dans la loge. « Avez-vous, demanda-t-il, balayé la petite cour dans laquelle donnent les 3 vasistas de la salle de bain ?»« La petite cour intérieure ? Non. Je ne la balaye qu'une fois par semaine. Aucune fenêtre n'y donne. Personne n'y peut passer. » Cette cour, en effet, n'avait pas d'issue. Il y fallait accéder par une porte toujours close donnant chez le concierge. Personne n'y était passé depuis 1 semaine. C'était moins une cour qu'une sorte de puits servant uniquement de prise d'air. « Descendons-y. Agent, demeurez ici et que personne ne touche à rien. Laissez tout ceci dans le plus grand ordre. » Le commissaire ne put s'empêcher de sourire. « Dans le plus grand ordre, » avait dit l'inspecteur. Or, tout était bouleversé, sens dessus-dessous dans le logement littéralement retourné. Mais Paul Barre se comprenait. Pour lui, tout était en ordre pour ses recherches. La petite courette où il pénétra par la loge du concierge n'avait que cette seule issue. C'était en effet un véritable puits, devenu inutile et qui avait servi à l'aération de l'immeuble, comme on en trouve encore dans les vieilles constructions modifiées selon les exigences modernes. Paul Barre regarda le sol. Il était cimenté. Sans souci du pli impeccable de son pantalon, il s'accroupit et observa les poussières et les ordures ménagères qui s'étaient accumulées dans la semaine. Il se releva sans que son visage trahît aucun autre sentiment que celui de la curiosité passionnée. Il dit seulement au commissaire « Personne n'est entré dans cette cour depuis 2 jours. Enfin, voyons tout de même. » Il traversa, pour sortir, la loge du concierge. Une reproduction photographique incandie au fusain était suspendue au-dessus du lit. Il regarda un instant le tableau, puis les diplômes encadrés qui ornaient les murs. Il se tourna vers le concierge. « Vous êtes marié ?»« Je l'étais, monsieur. Ma femme est morte le mois dernier. » Une loge à tenir pour un homme seul, c'est dur. Personne ne vous aide? Si, une femme de ménage. Quel âge a-t-elle?
60 ans. Elle venait déjà du temps de ma défunte femme. Depuis combien de temps ? On s'étonnait de cette conversation familière avec le brave concierge, qui répondit « Il y avait 5 ans ». Quand est-elle entrée dans la cour pour la dernière fois ? La semaine dernière. Paul Barre alla droit au commissaire. « Eh bien ?» demanda celui-ci avec un aimable sourire, car il appréhendait quelque peu l'humeur de l'inspecteur qui n'était que théoriquement son subordonné. « Et cette bague ?»«
Cette bague ?»
« Eh bien, le concierge est un ancien adjudant, médaillé avec 5 citations. Pardon, je vous parle de la bague. »«
Je vous réponds. Cet homme n'a pas d'histoire de femme depuis qu'il est veuf. Et la femme de ménage qui a 60 ans n'a pas balayé la cour cette semaine. »«
Ah ?» fit le commissaire ébahi.
« Oui, »
reprit l'inspecteur. Et il conclut.
« C'est très clair. Vraiment, vous allez voir. La bague n'est pas chez le comte de Magny. » La bague n'a pu sortir ni par la porte, ni par les fenêtres, ni par la lucarne de la salle de bain. Elle n'a pas pu tomber non plus dans la cour.
Et vous trouvez cela clair ?
Sans doute.
Ou bien la bague est sur la comtesse, ou bien nous ne comprenons pas où elle doit être.
Alors la bague est sur la comtesse.
Je ne le crois pas.
Bref, que concluez-vous ?
Je conclus que nous ne savons rien du tout.
C'est tout ?
C'est énorme. Nous ne parlons pas d'une idée fausse.
Malheureusement, cette certitude de notre ignorance va peut-être cesser.
Alors nous pourrons commencer à nous tromper.
Chapitre 3e. La bague de la reine Christine. Dans son minuscule bureau du quai des Orfèvres, l'inspecteur Paul Barre était occupé à une besogne singulière. Il examinait au microscope sur une lame de verre des débris infinitésimaux quand le commissaire Caumon de la police judiciaire entra.
« Eh bien, quoi de nouveau depuis tout à l'heure ?»«
Sacredier, fermez donc votre porte. Vous faites un courant d'air. »
répondit avec humeur l'inspecteur.
Le commissaire ne se formalisa pas de cette réception cavalière. Il savait que Paul Barre, durant ses recherches, perdait la notion de tout ce qui n'était pas son travail.
« C'est vrai, ça, » reprit Paul Barre. « On se donne un mal de chien à observer les rares indices qu'on a pu découvrir, et il suffit d'un courant d'air pour qu'une preuve s'envole. »
Impossible de lui arracher un mot, hors ceci. Il demeurait penché sur ses débris, où le commissaire discerna vaguement un cheveu, une écorce de graine et un fragment imperceptible de quelque chose de blanc.
Pour rompre le silence, il fit
« Enfin, vous continuez vos investigations ?»«
C'est-à-dire que je les interromps ?»
fit Paul Barre furieux.
« Oui, ce service de sécurité des souverains d'Illyrie. Ah, cet animal de ministre !»«
Oh !»
s'écria le commissaire épouvanté.
« Bah, c'est un vieil ami, mais il est bien embêtant. »
« Cela en effet n'a aucun rapport avec la bague au diamant rose. »«
Aucun, et c'est bien ce qui m'enrage. »
« Précisément. Je passais vous voir pour vous remettre ceci qu'on a apporté pour vous à propos de cette affaire. C'est une photographie agrandie de la bague avec son signalement, et une aquarelle industrielle reproduisant exactement sa couleur et ses reflets. Je peux vous donner cela demain, si cela vous dérange présentement.
Non, ne perdons pas de temps. Passez-moi ces documents.
Je les examinerai dans la voiture qui me conduira à l'aérodrome du Bourget. »
Et il partit d'un trait en emportant ses papiers.
Au Bourget, il retrouva l'atmosphère des réceptions officielles. Le garde en grand uniforme, les personnalités en tenue de gala. Le roi et la reine avaient tenu à arriver en avion depuis Sangria, leur capitale, jusqu'à Paris. Dans un groupe, l'ambassadeur d'Illyrie, qui conversait avec le baron Tumereau, expliquait. « Leurs majestés sont parties à midi, comme la radio du bord nous l'a annoncé. Voyage sans incident. Leurs majestés ont-elles fait plusieurs escales en cours de route ?» s'enquit le baron.
« Aucune escale. » Le voyage a eu lieu d'un seul trait, sans aucune interruption de marche.
Leur Majesté aurait pu arriver par chemin de fer.
Nous n'avons qu'une seule ligne, ou plutôt qu'une voie.
Un seul train peut s'y engager à la fois. Il faut 30 heures pour arriver jusqu'à la frontière de France.
Et par auto, hélas, l'état de nos routes rend le voyage impossible pour nos souverains. Il y faudrait plus de temps encore que par le train.
Tandis qu'avec l'avion dont l'Illyrie vient de faire l'acquisition...
Mais... « Tenez, que vous disais-je, baron, le voici !»
Les employés de la gare aérienne avançaient l'escalier roulant que l'on approchait de l'appareil, qui, ayant décrit une large courbe, descendit doucement se poser sur le sol. Le roi Thanase III apparut le premier, dans son brillant uniforme. Puis la reine Christine, ravissante dans son costume de voyage, qu'elle avait fait exécuter sur des modèles de notre rue de la Paix, afin de montrer aux Parisiens que nos modes étaient appréciés à Sangria. Paul Barre s'était placé au premier rang tout près de l'escalier de descente.
Il était à un pas du roi, puis, celui-ci étant passé le premier, selon le protocole, à un pas de la reine. La musique de la garde jouait l'hymne national d'Illyrie. Les acclamations montaient de la foule massée sur les terrasses de la gare. La reine leva la main dans un geste gracieux pour y répondre. Paul Bar étouffa un cri. Il demeura médusé. La reine Christine d'Illyrie portait à la main droite la bague au diamant rose de 100 millions. Chapitre 4e. La bague, je l'ai. Paul Bar se vit pour la première fois de sa carrière policière fort embarrassé. Il ne perdait pas de vue la reine Christine, mais il ne pouvait naturellement pas l'aborder. Et la bague, la fameuse bague, était à portée de sa main. Il la reconnaissait parfaitement. D'abord, ce diamant rose historique était unique dans le monde. Et puis, pendant le trajet en voiture, il avait pu consulter les documents qui l'identifiaient. La reine, au cours du trajet du Bourget à l'ambassade d'Illyrie, saluait, la main dégantée. La bague jetait ses merveilleux reflets. Paul Bar remarqua une tête qui, par la portière d'une voiture du cortège, ne cessait de regarder la reine, la main de la reine, et cette tête souriait. Paul Bar reconnut le baron Tumereau. « Hum !» murmura-t-il. « Il a l'air bien satisfait, celui-là. » Le soir, il assistait à la réception officielle. Il avait un habit très grand air. Pour la circonstance, il avait pris le titre, fort exact en somme, d'attaché au ministère de l'Intérieur. Ainsi fut-il présenté aux principaux personnages de la cour. Mais comment leur dire « Monseigneur, votre reine porte à son doigt une bague volée ?» Sans compter qu'après tout, il n'avait pas la preuve absolue de cette impossible accusation. Il fallait pourtant trouver un moyen. Parmi les personnes de qualité qu'on lui avait présentées, il y avait un certain premier chambellan qui lui semblait un peu un personnage de comédie, voire d'opérette, et qui, chamarré d'ordre, était cependant d'un rang éminent, fort sympathique au demeurant et parlant quelque peu notre langue. Il l'entreprit. « Monseigneur, je vous dois une confidence, je suis chargé par le ministre de la Sécurité de leur Majesté. » Le chambellan salua, se présenta. « Moi, semblablement, » dit-il opportunément. Il se nomma « Voivo di Cavonstroi. » « Monseigneur, j'ai une nouvelle inquiétante à vous communiquer. Il m'est revenu que le superbe bijou de sa gracieuse majesté est convoité par de hardis malfaiteurs décidés à tout pour s'en emparer. » Le voivode devint blême. « Qui donc oserait ? Auriez-vous 1000 soldats attachés à la garde de ce joyau que ces bandits, qu'on nomme des gangsters, s'en empareraient ? Hélas, je n'ai pas 1000 gardes pour ce bijou. Si un pareil malheur arrivait, ce serait ma destitution. Ce serait affreux. Il y a longtemps que Sa Majesté possède ce merveilleux bijou ? Non. Je le lui ai vu dans ce voyage pour la première fois. Il lui a été remis sur le quai de la gare par un bijoutier de la cour, bourgeois de la ville, Guy-Kep. » Paul Bar en savait assez. Le temps pressait. Il fallait une certitude absolue. « Je vous recommande la plus grande discrétion, monseigneur. Il ne faut pas effrayer leur majesté. »« En effet, » fit le ministre, « vous avez raison. C'est effrayant. Je peux compter sur vous, n'est-ce pas, pour la surveillance de ce bijou. Pouvez-vous me faire savoir, Excellence, où Sa Majesté dépose ses bijoux et particulièrement cette bague en rentrant dans ses appartements ?»« À notre palais royal, qui est terriblement gardé par nos guerriers armés de hallebardes. Elle les place dans les coffres de ses appartements, mais elle ne possédait pas cette précieuse bague. Ici, à l'ambassade, où elle vient pour la première fois, le cas n'a pas été prévu. Je vais m'en occuper tout de suite. » « Ce n'est pas ici que le bijou peut être en sûreté, » déclara péremptoirement Paul Bar. Le ministre entraîna l'inspecteur. Ils gravirent le grand escalier et parvinrent à la galerie qui desservait les appartements royaux. Ceux du roi étaient à droite, ceux de la reine à gauche. L'appartement de la reine Christine comportait un petit salon, une vaste chambre et la salle de bain. C'était tout. L'ambassade était ancienne et datait d'un temps où l'Illyrie était encore pauvre. « Oh !» dit Paul Bar en réprimant un sourire. « Ça manque vraiment de hallebardiers par ici. »« Nous avons nos serviteurs, monsieur, c'est-à-dire ceux de l'ambassade. Les connaissez-vous ? De quelle nationalité sont-ils ? Êtes-vous sûr de leur probité, de leur courage ? Et même simplement de leur aptitude à assurer la garde d'un trésor. Non, non, c'est vrai, vous avez raison, vous avez bien raison, répétait le voïvode éperdu. Il faut des spécialistes qualifiés pour éviter tout incident et même peut-être tout danger. Et habilement, il proposa de faire remettre durant la nuit le bijou à la police française en attendant l'arrestation des redoutables gangsters. Le voïvode accepta d'enthousiasme.
Je me chargerai bien, dit-il, de cette garde, mais c'est sans doute dangereux, et je n'ai pas 1000 hommes.
Le soir, à la fin de la fête, et peu après que la reine Christine fut retirée dans ses appartements, il apporta la bague à Paulbard, qui l'attendait dans un petit salon.
La voici. La première dame de compagnie pour le coucher de la reine me l'a remise. Il faut vous dire d'ailleurs que cette dame de compagnie est mon épouse.
Seul, ensuite, Paulbard ouvrit l'écrin. La bague étincelait de ses 1000 feux. Il rentra dans son bureau. Il était ému.
L'inspecteur Paulbard n'en était pas à son premier succès, mais celui-ci...
Alors, simplement, il prit le téléphone, composa le numéro du domicile personnel du chef de la sûreté.
« Allô ? » ?»«
C'est vous, chef ?»«
Ici Paulbard. » »«
C'est au sujet de l'affaire de la bague de la comtesse de Plassans. » »«
Oui, je vous réveille pour cela. » »«
Attendez, ne vous fâchez pas. » »«
Devinez où je l'ai retrouvée. » »«
Non, vraiment, cela ne vous intéresse pas ?»«
Allons, je vais vous le dire tout de même. » »«
Au doigt majeur de la main droite de Sa Majesté la Reine Christine d'Illyrie. » »«
Maintenant, si je vous dérange, excusez-moi, chef. »
Il éclatait de rire. À l'autre bout du fil, il entendait le chef de la sûreté éperdu.
« La bague ? Bien sûr que je l'ai. Elle est devant moi, à cette heure où je vous parle.
C'est une fort jolie chose, mais il faut que la comtesse la voie, qu'elle la reconnaisse elle-même. »
« La convoquer demain ?
Vous n'y pensez pas. Demain, il faut que la bague ait réintégré son écrin dans le cabinet de toilette de la reine.
Et ensuite, qu'on lui explique respectueusement l'affaire.
Oui, c'est délicat, très délicat.
Si nous allions chez la comtesse de Plassans ?
Mais oui, ce soir, cette nuit, tout de suite.
Naturellement, vous m'y accompagnez.
Désolé de troubler votre repos, chef.
Avec un rien d'ironie, sur ces derniers mots, Paulbard accrocha le récepteur.
Chapitre 5e. La découverte de Paulbard.
Madame, voici votre bague.
Le chef de la sûreté prononça ces mots avec solennité, comme s'il était pour quelque chose dans l'affaire.
Mais au moment où il tendait l'écrin à la comtesse, la main de l'inspecteur écarta la sienne. Il prit l'objet, ouvrit l'écrin, et sans la lui laisser prendre, il tendit la bague, la montrant à Madame de Plassans.
« Voyez, » fit-il.
« Je la reconnais, »
s'écria-t-elle. « Vous êtes sûre, certaine de ne pas faire erreur ?
Certes, mais il y a un moyen fort simple de s'en assurer. Ma bague porte sur sa monture de platine dans l'anneau une marque faite par un coin microscopique que j'ai fait fabriquer exprès pour mes bijoux et reproduisant en réduction mes armes et mon chiffre. Regardons. » Elle se pencha sur la bague dont elle examina la partie intérieure que lui tendait l'inspecteur.
« Tenez, voilà la marque. »
Paulbard l'examina à la loupe.
« Effectivement, dit-il avec tranquillité, c'est bien votre bague. »
Mais un mystère subsistait pour la comtesse. « Où l'avez-vous retrouvée ? » demanda-t-elle avec angoisse.
« Je ne suis pas encore autorisé à vous le dire, n'est-ce pas, chef ? »
« Dites-moi seulement ceci, je vous en prie. Ma bague a-t-elle été retrouvée chez Monsieur de Magny ?
Non, madame.
Ni sur lui ?
Non, madame. »
La comtesse respira. Une flamme s'allumait dans ses yeux. Elle ne put se retenir et s'écria avec élan.
« Merci. »
« Votre bague, madame, vous sera restituée.
Quand ? » ?»«
Une toute petite formalité d'abord. On a retrouvé la bague volée. » Il faut retrouver le voleur.
L'inspecteur revint avec son chef dans son bureau de laboratoire. Il posa la bague sur sa table et découvrit son microscope. Puis, il tira de son portefeuille une enveloppe blanche et en tira les infimes débris découverts au cours de son enquête. Il recommença son examen, longuement, avec une extrême attention.
« Tiens, tiens. »«
Qu'est-ce que c'est ? » demanda le chef. Mais Paulbard ne répondit pas.
Un moment encore, il demeura immobile. Puis il eut un sourire.
« Parbleu ! » s'écria-t-il. Il prit le téléphone, composa un numéro.
« Allô, madame la comtesse de Plassans ?
Ici l'inspecteur Paulbard. Votre bague vous sera restituée cette nuit. »
Chapitre 6e. Un cheveu, une graine, une plume.
« Pierre, Pierre, mon chéri, pardon, pardon. Non, je ne t'ai jamais soupçonné. Je ne pouvais pas, je ne devais pas. »
Le comte de Magny écoutait Roberte de Plassans qui, devant lui, des larmes dans les yeux, répétait « Pardon, pardon. »
« Quoi, que me dis-tu, je ne comprends pas.
Ma bague est retrouvée. »
« Où cela, comment cela ?»«
Oui, c'est l'inspecteur Paulbard. Il me l'a rapportée. Je l'avais tout à l'heure dans les mains. Elle me sera rendue cette nuit.
Mon pauvre chéri, tu étais bien malheureux, n'est-ce pas ?
Enfin, elle est retrouvée. N'aie plus d'inquiétude. Quand je pense que j'ai accepté cette fouille, cette perquisition, c'est affreux.
Me pardonneras-tu jamais, mon Pierre adoré ? »
Pierre ne répondit rien, il répétait. « Retrouvé ? Où ? Comment ? Par qui ?»
À ce moment, la sonnerie extérieure retentit. Le comte tressaillit. La comtesse alla ouvrir. À cette heure tardive, la femme de chambre était couchée. Paulbard entra avec son habituelle allure du parfait homme du monde qu'il était. Il ne parut pas surpris de rencontrer la Pierre de Magny.
« Vous avez une drôle de cave, mon cher comte, » dit-il.
« Ma cave ?
Ma cave ?» répétait le comte.
« La lucarne n'est pas grande. Un homme, certes, n'y pourrait pas passer, mais la main y passerait, et même autre chose que la main. »
« La main, autre chose que la main. »«
Vous vous faites de l'élevage, comte ?»«
De l'élevage. »
Mais Paulbard, tout tranquillement, était allé à la salle de bain. Il ouvrit le petit vasistas, il y passa la main tout en souriant.
« Et voilà, »
fit-il plaisamment. « Il était parti par là, il est revenu. » Il rentra sa main et montra la bague. « Il l'a rapportée. Prenez-la, comtesse, elle est à vous. Quant à vous, monsieur de Magny, je n'ai pas autre chose à vous dire. C'est tout. Et pour une pareille affaire, avouez que c'est peu. » « Ne craignez rien, l'affaire est close. » Il salua et se retira.
« Qu'est-ce que tout cela signifie ? » demanda la comtesse. Pierre s'était jeté à ses genoux. Il sanglotait.
« Oui, je suis un misérable. La bague, pardon, pardon. »
Roberte de Plassans le regardait, l'entendait.
« Oui, je suis un voleur. La bague, c'est moi. Je suis un voleur, un voleur. »
La comtesse mit lentement sa bague. Elle recula, ouvrit la porte.
« Adieu, »
dit-elle. Et elle sortit.
Paulbard s'était fait conduire à l'ambassade d'Illyrie. La fête s'achevait. Les derniers invités buvaient le champagne autour du buffet. Des dames réclamaient leur vestiaire. L'ambassadeur, souriant, s'entretenait avec ses invités. Dès que Paulbard apparut, il lui fit signe. « Le voïvode m'a dit, monsieur l'attaché. » Le baron Thumereau s'avançait. « Cette fête a été charmante. »
Paulbard entraîna l'ambassadeur. Dans un coin du salon, en quelques mots, il le mettait au courant de l'affaire de la bague.
« Tout est réglé, » fit-il. « Comptez sur la discrétion absolue de nos services. La comtesse elle-même ne sait rien. »
« Le gouvernement d'Illyrie vous remercie.
J'ai vu cette nuit le juge d'instruction qui est allé réveiller le procureur général. Affaire d'État, affaire classée. Il n'y aura pas de poursuite. Qui y parlerait ? Le comte de Magny, certes non. Et il ne sait rien, non plus que la comtesse. Le baron Thumereau, c'est lui qui a monté toute l'affaire. » Il savait que Sa Majesté convoitait un bijou rare, et spécialement cette bague historique. Il n'a pu l'acheter, il l'a fait voler par Pierre de Magny, ce noble décavé, réduit à ses dernières ressources, et qui ne pouvait épouser la comtesse liée par un serment solennel à son ancien époux. Le bijoutier de Sangria, Guy Kep, a été mis par lui en possession du joyau.
Et dans quelques heures, il sera prisonnier d'État.
Un prisonnier d'État chez nous ne parle jamais plus.
Mais comment avez-vous su tout cela ?
Cela a été long. « Excellence, c'est-à-dire qu'il m'a fallu plusieurs heures. Je me demandais comment la bague avait pu sortir de chez le comte de Magny, comment elle avait pu arriver à Sangria assez tôt pour repartir et avoir le temps, en quelques heures, de revenir chez nous. Elle ne pouvait avoir fait ce voyage, ni par le train, ni par l'auto, ni par l'avion, puisque vous n'en avez qu'un qui est l'avion royal. Alors j'ai recherché la solution de l'analyse et l'examen microscopique de trois débris infimes, un cheveu qui était à Pierre de Magny. Ces trois débris découverts dans la petite armoire de la salle de bain. Un fragment végétal qui était une parcelle de graines. Et un débris blanc que j'ai identifié comme un petit morceau de plume blanche.
C'était tout.
C'était assez.
J'avoue que je ne comprends pas.
Voyons, comment peut s'envoler, vous voyez que je vous mets sur la voie, comment peut s'envoler une bague qui ne peut avoir le temps d'aller de Paris à Sangria que par la voie des airs, mais pas en avion, puisque le survol d'avion est interdit sur le territoire d'Illyrie.
Eh, parbleu!
Le débris de graines et celui de plume vous le disent. La graine, ce qui restait de la nourriture d'un oiseau. La plume, un pigeon. Le cheveu du comte démontre sa présence près de ce volatile. La bague s'est envolée par pigeon voyageur. Par pigeon voyageur, mais oui. Par le pigeon voyageur du colombier du bijoutier Guy Kep. Pigeon remis par le baron Thumereau au comte de Magny. Le baron avait conservé le pigeon dans ce casier qu'il appelait sa cave. Il n'a eu qu'à fixer le bijou à la patte de l'animal et à lui donner la volée par le vasistas de la salle de bain. Ce qu'il a fait quand il est allé chercher la bouteille de champagne au moment du souper avec la comtesse. Ah, évidemment, il y avait du risque. Mais le pigeon était un champion bien choisi. Et il importait que Sa Majesté, qui voulait un bijou historique et même spécialement celui-ci, le reçût à temps. Tout juste à temps puisque le bijoutier a pu le lui porter à l'aérodrome de Sangria quelques minutes avant le départ.
Une heure après, l'ambassadeur retrouvait Paul Bar qui l'avait prié d'attendre. « J'ai reçu de leur majesté l'ordre de faire restituer le bijou. »« J'en étais sûr. »« Aussi est-ce déjà fait, Excellence. Si sa majesté la reine désire porter ce bijou pendant son séjour en France, on pourrait demander à la comtesse. » L'ambassadeur eut un mince sourire. « Non, il ne faut pas. Un joaillier habile de chez vous peut faire une réplique du bijou. Seulement la pierre ne sera pas authentique. Chut, personne ne le saura. Soyez-en certain, Excellence. Présentez les excuses royales à la comtesse de Plassans. Elle y sera sensible, Excellence, dans son malheur. » Quoi, son malheur? Puisqu'elle a retrouvé sa bague, elle a perdu autre chose qu'elle regrette plus qu'un bijou. C'est son bel amour qui vaut mieux pour elle qu'un diamant rose de 100 millions. Ainsi s'achève Un diamant de 100 millions, une enquête de l'inspecteur Barre par Michel Corrie.